pense aujourd'hui, le vrai souci de nos sociétés, c'est la vraie intégration, c'est la vraie inclusion. De plus, on a besoin de bras et on a besoin de cerveau. Hein. Et donc, je pense qu'à partir du moment où il y a des personnes qui viennent ici pour quelque raison que ce soit et qu'elles veulent travailler, on a des centaines de milliers de places vacantes aujourd'hui. Hein. Donc, à un certain moment, le futur de notre économie, c'est d'avoir une économie qui marche, c'est-à-dire d'avoir les bras et les cerveaux, et les cerveaux adéquats.
Dans Let's Talk, la FEB vous fixe rendez-vous avec une figure clé du monde entrepreneurial en Belgique. Qui se cache derrière la femme ou l'homme chef d'entreprise? Quel est le moteur qui l'a ou le pousse à faire tourner son activité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Est-ce la passion des chiffres, les gènes ou bien l'ambition? Let's Talk vous propose de découvrir une personnalité du monde du business, devant et derrière les coulisses. À écouter chaque dernier jeudi du mois.
L'invité de ce nouvel épisode de Let's Talk, Michel Croiset, est devenu CEO de Sodexo Belgique et Luxembourg en 2005 et en est le président depuis 2014. En Belgique, Sodexo organise deux types d'activités, le facility management et la restauration d'une part, l'émission de chèques, tels que les titres services, d'autre part. Ce qui représente déjà en soi tout un éventail de services aux particuliers et aux collectivités, sur site et à domicile. Qu'est-ce qui les intègre et les fait évoluer ensemble? C'est ce que nous explique notre invité, qui reviendra aussi sur le rôle d'accélérateur qu'a eu la mise en place structurelle du télétravail sur le nouveau business model de l'entreprise. Le groupe Sodexo collectionne depuis un certain nombre d'années les distinctions, qu'elles soient le fait d'organismes nationaux ou internationaux. Sodexo Belgique n'est pas en reste. Ces récompenses ne sont pas un but en soi, nous assure l'intéressé, mais nier l'importance qu'elles ont pour nous serait mentir. Induire grâce à elles des comportements plus vertueux auprès des 100 millions de consommateurs que nous approchons chaque jour, ça c'est un vrai moteur. C'est parti. Michel Croiset, bonjour.
Bonjour.
En 2020 et 2021, Sodexo a été fortement touché par la crise du Covid. Après deux années de résilience, diriez-vous que la page est définitivement tournée, que l'entreprise s'est relevée de cette période?
Alors, l'entreprise s'est relevée de cette période. Dire que la page est définitivement tournée, on est encore loin de pouvoir affirmer ça. Bon, je pense que par rapport, nous avons été excessivement touché, le secteur de la restauration collective de façon générale a été particulièrement touché pendant toute cette crise à plusieurs niveaux, mais heureusement par rapport à Sodexo, grâce à la diversification de nos activités et aussi aux divers segments sur lesquels nous sommes présents, nous avons quand même pu avoir une résilience qui nous a permis de passer la crise.
A permis de compenser l'autre,
c'est ça? Oui, voilà. Donc nous avons nos activités de restauration, nous avons toutes nos activités de facility management hors restauration. Et bien entendu, nous sommes présents aussi dans le secteur des maisons de repos, dans les prisons, dans les centres psychiatriques pénitentiaires, à la défense et dans des centres de production, dans des entreprises dans lesquelles la production a dû continuer, entre autres le secteur pharmaceutique dans lequel on est assez impliqué. Ça nous a permis de passer au travers de la crise, avec une partie de l'entreprise qui devait assurer la continuité des services. Les personnes âgées dans une maison de repos doivent avoir à manger tous les jours, mais dans un environnement qui était excessivement anxiogène. Avoir des personnes qui veulent aller travailler dans des maisons de repos, même s'ils n'étaient pas en contact avec les patients, c'était quand même excessivement anxiogène. Et d'un autre côté, une autre partie de l'entreprise qui était totalement à l'arrêt, parce que la réalité, c'est que avec le lockdown, il n'y avait personne dans les bureaux, hein. Tous les cols blancs étaient absents.
Et quel a été justement l'impact de la mise en place structurelle du télétravail sur votre activité de restauration collective?
Ben, alors, L'impact structurel du télétravail fait qu'aujourd'hui, on était obligé de changer. On était obligé de changer notre approche. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est simplement une accélération de tout ce qui était, je vais dire, déjà dans les cartons. J'ai l'habitude de dire que la Covid a été quelque part un peu le zip dans le barbecue. Mm-hmm. Ah, c'est une image qu'en général, tout le monde comprend. Mm-hmm. Mais je veux dire, toute l'approche durabilité, toute l'approche flexibilité, on a dû l'accélérer de façon
l'épreuve du feu au fond pour toutes
ces mais il faut quand même savoir que pour beaucoup d'entreprises comme chez Sodexo et d'autres entreprises, le télétravail existait déjà auparavant. L'importance du durable de façon générale, des critères écologiques de façon générale existait déjà auparavant. La réflexion quant au commerce local existait aussi déjà auparavant, mais bon, ici il y a eu un coup de vrai accélérateur. Et donc ça a entraîné tout ceci a entraîné aussi quelque chose qui est quand même très très important, très très impactant pour l'entièreté du secteur et pour tous les travailleurs. C'est un secteur dans lequel il a dû avoir des plans sociaux très très importants, et il faut quand même jamais oublier que quand il y a un plan social de 400 personnes, ce sont 400 familles qui sont touchées, mais c'est un impact non seulement sur ceux, bien entendu, qui sont impactés directement, mais aussi sur tous ceux qui restent. Donc il faut pas oublier que c'est émotionnellement très lourd qu'on soit, quel que soit l'endroit où on se trouve dans l'entreprise, et donc il a fallu retravailler dans un environnement dans lequel il y a eu énormément de tensions émotionnelles, énormément de travail. Tout le monde a dû travailler beaucoup plus parce que le taux d'absentéisme partout était très important. Mais vous savez, dans une équipe de cuisine, on ne peut pas non plus se passer d'une personne. Quand une personne n'est pas là, il faut la remplacer. Ça n'est...
Et comment voyez-vous les mois qui viennent, puisque une crise chasse l'autre? Quel est l'impact maintenant de l'augmentation des prix de l'énergie et des matières premières sur votre activité, donc toujours de restauration collective?
De façon générale, tous les autres services, les autres services facilitaires, je dirais, ont été proportionnellement moins impactés. Certains ont même connu parfois aussi un développement, puisqu'il fallait, je veux dire, la partie security services, bien entendu. À un moment, il faut avoir un peu plus de sécurité dans les entreprises, le cleaning aussi, la désinfection des locaux, etc. Donc ça marchait bien entendu un petit peu mieux, mais au niveau de l'activité de restauration collective, aujourd'hui, nous arrivons de façon globale chez Sodexo. Pour cet exercice fiscal-ci, nous pensons être revenus à notre niveau d'activité d'avant Covid. Donc, mon exercice fiscal vient de commencer, puisque nos exercices fiscaux chez Sodexo commencent le 1er septembre pour terminer le 31 août. Donc, on est un peu en décalage.
Vous êtes serein, d'une manière générale, vous êtes...
Mais écoutez, je suis serein parce que je pense que notre plan stratégique est solide et cohérent. Donc, on est resté en ligne avec ce qu'on faisait avant, avec des inflexions, bien entendu. Un plan stratégique est fait pour être en constante évolution. C'est un organisme vivant, si je peux me permettre de parler, de parler comme ça. Donc, moi, je suis confiant dans les équipes, je suis confiant dans le plan stratégique et dans sa mise en œuvre. Et maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il faut aller très, très vite, il faut avancer très vite. Tout s'accélère. Ça n'est pas la particularité. On est dans une crise de la particularité de mon secteur. Tout s'accélère et beaucoup de gens sont fatigués.
Michel Croisé, Sodexo, vous l'avez d'ailleurs déjà souligné, c'est tout un éventail de services ou de métiers aux particuliers et aux collectivités, sur site et à domicile. Vous avez incité la restauration, le nettoyage, la réception, l'entretien et la maintenance technique, sécurité et gardiennage. Mais quel est le lien entre toutes ces activités? Qu'est-ce qui les intègre et les fait évoluer ensemble, je dirais?
Alors, oui, le lien, c'est que donc, notre mission, c'est d'augmenter la qualité de vie de nos collaborateurs, de nos clients, et de développer de participer au développement des communautés, des pays dans lesquels nous sommes actifs. Et augmenter la qualité de vie, ça veut dire prester au travers des services que nous livrons, c'est d'avoir une vraie approche de développement durable, une vraie approche de développement économique et une vraie approche de développement social. Mm-hmm. Et donc, l'ensemble de ces services sont totalement cohérents par rapport à cette mission. Je pense que c'est une mission qui donne plein de sens, qui donne du sens au travail. Aujourd'hui, ce qui est clair, et heureusement, de plus en plus de travailleurs cherchent le sens.
Oui.
Cherche le purpose, hein, comme on dit, et la ligne de Sodexo depuis le début, c'est esprit de service, esprit d'équipe, esprit de progrès autour de cette mission qui est inchangée, et dans une entreprise dont la base est toujours un actionnariat familial de la famille du fondateur, ce qui assure une certaine cohérence aussi.
J'allais y venir, à la diversité des segments d'activité et des métiers s'ajoute une très grande couverture géographique. Sodexo est au fond une organisation internationale dirigée par un actionnariat familial de contrôle, en l'occurrence français, la famille Bellon. Quel est le degré d'autonomie de Sodexo Belgique, qui a été la première extension du groupe hors de France en 1971? Quelle est donc, oui, l'autonomie de Sodexo Belgique dans le groupe, et qu'est-ce qui fait la particularité d'un tel actionnariat?
Aujourd'hui, nous sommes présents dans 55 pays. C'est un groupe qui mondialement représente 412 000 personnes. Je ne l'ai plus en tête, mais à un certain moment, on était, il n'y a pas longtemps, un 19e employeur mondial, et on ne doit pas en être loin maintenant. Donc c'est quand même très très important, hein, dans une entreprise dont, je répète, le contrôle est toujours un contrôle familial. Mm-hmm. Donc sans trop de dilution. En Belgique, nous sommes 3 200. Collaborateurs de Sodexo. Chacun des pays, je vais revenir en arrière 2 secondes, la particularité de Sodexo, c'est une multinationale. Moi, j'aime bien dire que ce n'est pas une multinationale, c'est une entreprise multilocale. Mmh. Pourquoi multilocale? Parce que nous prestons des services à haute intensité de main-d'œuvre, et je veux dire, en Belgique, ce sont des résidents du territoire belge qui travaille et qui preste les services de Sodexo auprès de l'entièreté de nos clients. Chaque marché est vraiment spécifique. Donc, si on prend simplement le Benelux, les 3 marchés sont totalement différents. La concurrence est totalement différente. Le poids relatif des clients est totalement différent. La maturité d'externalisation est aussi vue de façon non identique aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg. Et certains des concurrents ne sont même pas connus au-delà de certaines frontières, tout en étant très relevants dans les autres pays. Et donc, la stratégie de Sodexo Belgique est une stratégie locale qui, bien entendu, s'insère dans la stratégie globale du groupe. Donc en fait, c'est une déclinaison en fonction de la vraie réalité du marché, de la vraie réalité législative aussi. L'esprit de Pierre Bellon et de Sophie Bellon, la présidente de Sodexo, est vraiment de favoriser l'intrapreneurship. L'entrepreneurship et donner aux équipes la possibilité de se tromper. Hein. Pierre Bellon disait souvent que tout ce qu'il faut, lui le secret de sa réussite, c'était de réussir un peu plus qu'il ne ratait. C'est une belle philosophie pour le développement et pour l'entrepreneurship de façon générale.
En 2021, vous avez été signataire avec d'autres représentants et patronaux et syndicaux d'une carte blanche en faveur de l'accès des sans-papiers aux métiers en pénurie et ce via un permis de séjour unique. En fait, cette problématique qui refait régulièrement surface se heurte encore toujours à certains blocages. Et quelle est votre réaction face au nom de certains? Où vous comprenez que cela bloque à certains niveaux?
Oh. Personnellement, enfin, j'aime pas trop la langue de bois. Non, je ne comprends pas que ça puisse bloquer à un certain niveau. Je pense qu'à un moment, il faut vivre dans le monde réel et ce ne seront jamais ni les noms, ni les murs qui empêcheront une quelconque migration, quelle qu'elle soit, quel que soit le nom qu'on met dessus. Ça a toujours été le lot de l'entièreté de toute l'histoire. Toute l'histoire est une histoire de migration, et en Afrique, les migrations sont encore bien plus grandes chaque année que ce qu'on connaît ici, hein, ou que ce qu'on connaît aux États-Unis. Moi, je pense aujourd'hui, le vrai souci de nos sociétés, c'est la vraie intégration. C'est la vraie inclusion. De plus, on a besoin de bras. On a besoin de bras et on a besoin de cerveau. Hein? Donc, et donc, je pense qu'à partir du moment où il y a des personnes qui viennent ici pour quelque raison que ce soit et qu'elles veulent travailler, on a des centaines de milliers de places vacantes aujourd'hui. Hein? Donc, à un certain moment, le futur de notre économie, c'est d'avoir une économie qui marche, c'est-à-dire d'avoir les bras et les cerveaux, et les cerveaux adéquats.
Je fais immédiatement le lien avec la diversité, qui est une thématique qui vous tient à cœur. Dans une vidéo réalisée pour Actiris, à la question « Quels conseils donneriez-vous à un chef d'entreprise qui hésite à se lancer dans la diversité ou le recrutement d'allochtones ?» Vous répondez « Il n'y a aucun danger à essayer, on ne peut même pas tomber. » Et pourtant, donc, on sait qu'en région bruxelloise, par exemple, la région reste confrontée à un taux de chômage des jeunes particulièrement préoccupant. Mais justement, quelle est votre analyse face à ce constat?
Écoutez, attends, moi, quand je disais on peut pas tomber, je n'ai que des expériences positives. Nous sommes un très gros employeur de personnes aussi bien, je dirais, peu scolarisées que de personnes hyper scolarisées. Je refuse, et Sodexo de façon générale aussi, refuse de faire une quelconque ségrégation à l'embauche sur quoi que ce soit. Hein, que ce soit les origines, les langues, les gender, les gender handicap, tout doit être inclusif dans l'entreprise. Pourquoi? Parce que c'est simplement le respect de la société. Alors, moi, quelque part, on peut en faire un grand discours, c'est simplement notre rôle d'être humain, point. Le rôle d'être humain, c'est d'être inclusif, c'est de respecter chacun. Moi, je dirais, surtout, aucune barrière, c'est un vrai enrichissement. Ça n'est pas du tout ce que je dis ici n'est pas du tout du politiquement correct, du politiquement incorrect. Vous appelez ça comme vous voulez. C'est simplement la vraie vérité. Et tout le monde se retrouve enrichi et étonné de la culture de l'autre. Et puis voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, et il faut aussi que tous ceux qui veulent monter des entreprises, quelle que soit leur origine, doivent oser prendre aussi quelques risques. Et là, notre enseignement ne pousse pas encore vraiment à prendre le goût du risque.
Dans le dernier rapport sur la responsabilité sociétale de Sodexo Belgique, je lis ceci, Sodexo Belgique a validé un plan stratégique carbone ambitieux, réduire de 50% d'ici 2025 et 70% d'ici 2030 son empreinte carbone. Cet objectif est-il en voie d'être atteint?
Oui, alors, excuse-moi. Oui, cet objectif est en voie d'être atteint. Et bien entendu, je dis, entre le moment où on l'a dit et maintenant, on a parfois été un petit peu secoué parce que, étant donné que c'était quand même parfois difficile d'avoir des chaînes d'approvisionnement qui tenaient la route par rapport à ce que nous avions dans nos plans. Donc, il y a eu quelques petits accros, bien entendu. Mais aujourd'hui, pourquoi je suis assez confiant? dans sa réalisation, c'est que c'est une démarche holistique. C'est une démarche qui part, qui commence, on en a parlé tout à l'heure, de la ferme, de la ferme La Fourchette, et dans l'entièreté des services que nous prestons, c'est une réflexion à l'aune, au travers du prisme des SDG, des objectifs de développement durable de l'ONU, du CO2 en particulier. Et donc ça commence dans le calcul du CO2, ce qu'on ne mesure pas. On le sait très bien, ne se réalise jamais. Donc c'est le calcul du CO2, ne fût-ce que si on parle de la partie restauration, le calcul des émissions CO2 dues à une recette, dues à un menu. Et à partir du moment où on est conscient de ce que c'est, mais c'est comment réussir à diminuer cet impact. Un deuxième impact énorme, c'est le gaspillage alimentaire. Donc, si le gaspillage alimentaire était un pays, en termes d'émissions mondiales, ce serait le troisième pays après les États-Unis et la Chine. Il y a un énorme enjeu environnemental autour du gaspillage alimentaire, ce qui dépasse la dimension de la lutte contre la malnutrition. Mm-hmm. Donc c'est un vrai souci. Et puis donc bien entendu aussi une cuisine, et vous le lisez dans la presse quand on parle de ces pauvres boulangers qui sont obligés de fermer tellement le coût de l'énergie est absolument impayable, mais une cuisine c'est excessivement énergivore. Et donc il y a plein d'actions qui peuvent être prises simplement dans la gestion du chaud, la gestion des frigos, la gestion de la lumière, et la gestion des déchets. Oui. Dont on parlait tout à l'heure.
Et ça suppose aussi une sensibilisation de tous les collaborateurs.
Tout à fait. Puis aussi une vraie réflexion quant à la mobilité. Donc la mobilité, il y a la mobilité douce, mais il y a la mobilité voiture, et puis le bon kilomètre, c'est celui qu'on ne fait pas. Je vais dire, c'est simplement, c'est changer son pattern, c'est changer le prisme.
Et vous mesurez périodiquement, régulièrement, l'état d'avancement de ce plan.
Nous mesurons ça, nous avons, je pense que malheureusement, la crise que nous connaissons maintenant depuis la guerre en Ukraine, avec les tensions énormes sur le marché, sur le marché de l'énergie et l'explosion des prix, fait que tout le monde, dans votre privé, dans mon privé, comme dans le professionnel, ça a été un peu une porte qu'on a reçue dans la figure. Et donc, même ceux qui faisaient pas attention, aujourd'hui, ferment la lumière derrière eux quand ils sont pas dans la pièce. Alors qu'auparavant, ils la laissaient probablement allumée. Et je pense que quelque part, si je peux me permettre de parler comme ça, ça aura peut-être un impact comportemental positif pour le futur, parce que quand les gens se rendront compte que aujourd'hui c'est impayable de laisser le chauffage allumé, de laisser la lumière allumée, ils se rendront compte que après, quand nous l'espérons, le prix de l'énergie et des fluides rediminuera, ils se rendront compte que c'est peut-être aussi un non-sens de gaspiller de l'énergie, qui est quand même des choses qui touchent le plus à la biodiversité, qui touchent le plus à la planète, à tous niveaux.
Michel Croizet, toujours dans votre dernier rapport sur la responsabilité sociétale, je lisais qu'en Belgique, votre mission et votre vision ont été actualisées en 2019 via, et donc je vous cite, un processus d'intelligence collective afin d'assurer une adéquation toujours plus forte entre la mission du groupe Sodexo et les réalités du contexte local. Expliquez-nous.
Alors, ici en particulier, il s'agit de... C'était mis en place au sein de notre filiale Benefits and Rewards, donc qui s'occupe de l'émission des chèques et cartes de service, les lunch pass, les titres services, etc., qui a fait un vrai projet, l'holocratie, l'entreprise libérée, et qui est tout à fait d'application aujourd'hui au sein de Sodexo. on-site, c'est-à-dire c'est notre dénomination interne pour l'ensemble des services, facilitaires. Mais là, je vais dire qu'on fonctionne avec ce que j'appelle et ce que d'autres appellent, je dirais, la pyramide éclairée. C'est qu'il faut, vous ne pouvez plus, vous ne faites plus des injonctions top-down. Ça, c'est du management. C'est du siècle, c'est du siècle dernier. Ce qui est important, c'est d'écouter vraiment ce qui se passe, participer, collaborer, avoir des discussions constructives, avoir de vrais dialogues avec tous ceux qui font le job. Hein. Mmh. Et je veux dire, finalement, le rôle d'un dirigeant, le rôle d'un leader, c'est d'être le facilitateur de la réalisation du job de tous ses collaborateurs.
Le groupe Sodexo est actif dans les prisons, en Belgique notamment. Comment l'entreprise implémente-t-elle dans ce segment qui est quand même très particulier et sans doute aussi très complexe ces valeurs d'engagement en termes de durabilité, de responsabilité?
Oui, alors, dans les prisons, outre ce que je vous ai dit, ce dont on a déjà discuté concernant le gaspillage alimentaire, etc., tout ce qu'on fait au sein de nos services. Donc d'abord, nous sommes présents dans les deux centres psychiatriques pénitentiaires de Gand et d'Anvers. Ce sont les seuls qui existent aujourd'hui en Belgique. Il y en a d'autres qui vont être créés en Wallonie d'ici peu. Nous sommes aussi présents à la prison de Marche. Et là, nous avons une démarche d'insertion et d'accompagnement des détenus pour les aider à pouvoir avoir une vie post-incarcération ou post-soin dans le cadre des institutions à Gand et à Anvers pour les aider à pouvoir se réinsérer beaucoup mieux dans la société. Alors ça passe par quoi ? Ça passe par la possibilité, bien entendu, de travailler avec nos équipes au sein de toutes les activités qu'on preste dans, par exemple, vous savez, le laundry, donc le nettoyage. Ce sont beaucoup de gens qui vivent, beaucoup de gens qui vivent ensemble. Il y a les draps, il y a les habits, etc., etc. Donc ce sont, je veux dire, des grandes doucerettes, hein, si on peut, qui doivent être bien entendu gérées. Et puis alors, il y a toute la partie cuisine. Et donc nous faisons des formations qui sont des formations et qualifiantes et même diplômantes. Ça permet d'augmenter les chances de réinsertion positive, hein, toujours l'enjeu, ce qui est finalement l'enjeu et qui est le but de... qui est le but du département justice, bien entendu.
Sodexo collectionne depuis un certain nombre d'années les récompenses, hein, qu'elles soient le fait d'organismes nationaux ou internationaux. Enfin, je songe au label de qualité délivré par l'AFSCA, au label Good Food, créé par Bruxelles Environnement, au prix CAP 48, au prix GoEMIO. Sur le plan international, en 2021, et pour la 14e année consécutive, Sodexo vient en tête du classement de son secteur d'activité pour ses performances en matière de développement durable. Ça, c'est un classement établi par la société de notation Standard & Poor's. Mais je veux dire, n'en jetez plus, la coupe est pleine. On a l'impression que ces récompenses coulent de source. Mais je suppose qu'il n'en est rien.
Ces récompenses ne coulent pas de source. Et en plus, ce n'est pas un but en soi. le but en soi, c'est la vraie réalisation. Par contre, dire que ces récompenses... Ne sont pas importantes, ce serait aussi ne pas dire la vérité. Ce qui est très clair, c'est que ces récompenses, c'est une vraie reconnaissance du travail de tous les collaborateurs de Sodexo dans le monde et ceux avec qui je travaille ici. En particulier, du travail accompli et de la volonté que chacun a eu à aller dans la direction, dans cette direction. Et je pense que ce sont tous les domaines dont vous avez parlé, ce sont des domaines qui donnent du sens, hein. Qui donnent du sens, dans lesquels, paradoxalement, il ne faut pas vraiment convaincre aujourd'hui qui que ce soit que d'essayer de faire quelque chose qui est meilleur pour la planète est un plus. C'est la fierté qu'on a quand on rentre chez soi, quand on essaie de pouvoir dire, tiens, ce que j'ai fait dans la journée, ben voilà,
Oui.
Va avoir un effet positif sur la planète, sur l'insertion, sur l'intégration de personnes handicapées, sur l'intégration, sur l'égalité homme-femme, etc., etc.
Et ce sont de fameux arguments aussi pour attirer de nouveaux talents.
Et ce sont de fameux arguments pour attirer de nouveaux talents. Et c'est quelque chose aussi qui nous permet d'être aussi très très souvent en phase avec avec nos clients, et nous adorons échanger des bonnes pratiques à ce niveau-là. Et finalement, tout ce que nous faisons a un seul objectif, c'est aussi aider nos clients à atteindre leurs propres objectifs, que ce soit en durabilité ou autre. Et puis surtout, et je pense que ça c'est quelque chose de très important, donc nous sommes leaders dans notre marché, on est même un peu leader dominant, je dirais, en Belgique dans beaucoup d'activités. Mais ce qui est important quand on est leader, c'est pas simplement de montrer un sheet Excel et des chiffres qui sont plus gros que les autres. Il y a très peu de gens qui sont motivés simplement par un gros chiffre avec beaucoup de zéros ou des cas, hein, comme on dit. Donc, en bas de tableau et en haut de tableau. Par contre, ce qui est important, c'est de pouvoir donner l'exemple. On s'identifie à un leader. On s'identifie à un Federer, on s'identifie à un Nadal. C'est un exemple. C'est pas ces statistiques chiffrées qui vous font dire ah tiens j'adore ça, je veux suivre ça aussi. Et donc dans notre domaine en particularité, nous touchons énormément de gens. On touche 100 millions de personnes sont impactées par les services de Sodexo dans le monde. Hein. Donc, ça veut dire que quelque part, nous avons le devoir aussi d'être exemplaires et d'essayer de pousser nos consommateurs, les bénéficiaires d'un service, à un comportement, je dirais, un peu plus vertueux par rapport à notre environnement.
Michel Croiset, on va terminer sur une note légère. Votre violon d'Ingres, à vous, c'est la guitare, en jouer, mais aussi en posséder, et si possible, tout cela en fredonnant Eric Clapton.
Vous êtes bien renseigné, je vois, on vous a aidé à l'information, oui. Donc ma guitare d'Ingres, ouais, on va dire
oui,
ça comme
oui,
ça.
Oui, oui.
On va dire comme ça. Oui, bien entendu, c'est une passion, c'est quelque chose que j'adore. Alors, j'ai des parents qui m'ont amené à faire de la musique quand j'étais petit, et c'est ce que je conseille d'ailleurs à tout le monde. Mais je pense que c'est quelque chose dans lequel on peut se couper du monde extérieur. Enfin, moi, ça me permet de me couper du monde extérieur. S'il faut être absolument... c'est se ressourcer. On peut être... Il faut se mettre totalement dedans. Et puis, vous savez, vous avez un quart d'heure, c'est bien. Vous avez trois heures, c'est bon aussi. Et il s'agit d'être là. Il s'agit d'être là dans le moment. Parce que sinon, on fait une prestation technique. Et je pense que quelque part, la musique, ça vous oblige de rester dans un tempo. C'est un peu comme on se doit dans la vie, c'est de respecter aussi des silences. Il n'y a pas que des notes. Il faut savoir se mettre des silences. Et puis voilà, moi j'aime bien faire vibrer une corde. Moi j'aime bien ça. Puis je trouve que pourquoi en posséder? Moi je n'achète que des guitares sur lesquelles j'ai envie de jouer. Et puis voilà, je trouve ça c'est un instrument qui est beau, qui est sensuel, que j'aime bien toucher, et jouer.
Michel Croiset, un tout grand merci.
Merci à vous.
C'est déjà la fin de cet épisode. Notez dès à présent dans votre agenda les prochains rendez-vous du podcast Let's Talk de la Fédération des entreprises de Belgique. Rejoignez-nous chaque dernier jeudi du mois et continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre site internet feb.be.